Europe 1.
Europe 1, 10h-11h, Mediapolis. Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, oui c'est samedi, c'est Mediapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politique, réalisée par Jean-Luc Arblade et préparée par Paul Lassène. Et avec nous aujourd'hui, c'est la première fois que je choisis une telle configuration, deux jeunes journalistes politiques d'Europe 1, Aurélie Herbemont et Virginie Riva, qui suivent la droite, la gauche, le pouvoir, la politique quoi. Allez, on commence avec un autre, pas tout à fait journaliste, mais tout à fait humoriste politique, Canteloup.
L'image a fait sourire dans les rédactions la carte de la vague de chaleur à la forme d'une tête de mort qui recouvre la France.
Repentez-vous.
Philippe de Villiers, bonjour. Ah ben ça m'aurait étonné, tiens.
Bonjour, femelle.
Oh, du don, hein. Oh.
Va des rétro Aliagas. Il s'est sauvé, il a bien fait, le mécréant.
Ah ben dis donc, ça commence bien tout ça.
Oh, ah, tu peux me servir tes sarcasme d'hystérique à mamelle. Mais la vérité, oui, la vérité est là, la mort, la tête de mort recouvre la France. C'est le diable, c'est Belzébuth en calbut qui va tous nous cuire le cul. Car nous avons, oui, vous et moi tous, surtout vous tous de cette table, vous avez tous péché. Je l'avais dit, voilà notre punition, oui, vos auditeurs, oui, vous les citoyens, notre punition pour autoriser le droit de vote des femmes, non, de enfin, l'avoir dit, c'est ne me coupe pas, ne me coupe pas. Vous, la punition pour avoir légalisé les mini-jupes, marié les homosexuels et laissé jouer au football les goudous moustachus.
Oh là là, oh,
le châtiment divin est tombé.
Bon, écoutez, ça suffit. Hein. Arrêtez. Non, arrêtez, s'il vous plaît, monsieur De Villiers, avec vos clichés sur les femmes homosexuelles. Cara Delevingne, il a une des plus belles mannequins du monde, elle est homosexuelle. Et alors,
Delevingne. Oui, faites voir une photo. Voilà, saleté. Chassez la vision tentatrice de cette pécheresse qui met à mal l'élastique de mon slip français, bleu, blanc, rouge. Non, je vais me fouetter les génitoires à l'ortie fraîche.
Oui, c'est ça. Allez, faites ça.
Je vais aller me baigner avec Aliaga, ça me calmer.
Allez-y.
Joie de vivre est en train de monter en moi.
C'est bon.
Ouais, j'adore la joie de vivre.
Oh, une baleine.
On ne s'en lasse pas. Et peut-être que, alors qu'on dit qu'on n'a plus le droit de dire grand-chose, ce sont avec les humoristes comme Canteloup qu'on se permet le plus. Ça vous choque ?
C'est un humour particulier. Après, l'idée du châtiment divin, c'est un bon ressort parce qu'effectivement, cette canicule, c'est quand même un châtiment humain et ça permet de mettre à distance, je trouve. Après, sur les interroger les clichés, les stéréotypes en les redisant, même avec la voix de De Villiers, oui, ça me choque un peu.
Ouais. Ah oui. Ouais. Vous aussi, Aurélie, hein, bon.
Non, ça va. Je suis pas choquée. Il y a certaines phrases, peut-être. Bon, je les ai moins appréciées que les autres, mais voilà. Non, ça va. On peut encore rire de tout. Et puis avec la chaleur, c'est vrai que les esprits s'échauffent.
D'accord. Et alors, avec la chaleur, les esprits s'échauffent. Et avec la chaleur, les ministres aussi, de temps en temps, se font prendre. Écoutez, c'était dans la cour de l'Assemblée nationale, mercredi.
Qu'est-ce que vous en pensez du fait qu'un jour de canicule comme ça, les ministres viennent en voiture, alors que souvent, ça se trouve à quelques centaines de mètres de l'Assemblée, et que les voitures, elles tournent dans la cour de l'Assemblée.
Moi, je fais une scène
là. Ouais, mais c'est pas... Même en métro et tout ça, c'est pas si loin que ça. Vous êtes joueur, il y en a pour quelques minutes. Ça n'a pas l'air de poser problème.
Est-ce qu'il n'y a pas un vrai changement chez certains politiques qui font des choses qu'ils n'auraient pas faites il y a 20 ou 30 ans, qui, d'ailleurs, à la limite, pour part, prennent votre place, c'est-à-dire qu'ils se mettent dans une situation, là, comme on vient de le voir avec Ruffin, de faire un reportage provoquant, en quelque sorte.
Après, c'est son métier d'origine. Hein. François Ruffin est journaliste. Il a fondé sa revue Fakir. Effectivement, il fait beaucoup d'investigations, il a fait des documentaires. Bon, donc lui, c'est quand même sa fonction à l'origine. Et effectivement, là, il essaye d'utiliser ces compétences-là pour faire le... Il dit lui-même d'ailleurs, hein, je vais faire le Yann Barthès de la politique. Donc on l'a vu effectivement dans la cour de l'Assemblée nationale, avec les voitures dont les moteurs étaient encore allumés, des ministres qui attendaient patiemment que les questions au gouvernement se terminent pour les accompagner ensuite à leur rendez-vous, voire au Sénat, puisque parfois les ministres en chaîne de l'Assemblée jusqu'au Sénat.
Oui, quelqu'un a calculé qu'il allait à pied, une prenait 31 oui, minutes, et qu'en vérité, il devait y être 30 minutes après, et que donc c'était pas jouable.
C'est très près, mais en même temps très loin. Il faut, puis c'est vrai que les ministres ont des emplois du temps un petit peu chargés, donc ils prennent la voiture. Et à la rigueur, qu'ils prennent la voiture, il y a des questions de sécurité. La vraie image que met en avant François Ruffin, et c'est vrai qu'il pose question, c'est au moment où on est en pleine canicule, on parle de réchauffement climatique, l'Assemblée travaille sur ces sujets, les moteurs tournent pour rien. Alors ceci dit, pas pour rien, parce qu'il y a les ministres, mais il y a les chauffeurs en fait des ministres. Et si on les laisse une heure dans la cour de l'Assemblée avec le moteur coupé et donc sans la clim, je suis pas sûre que ce serait un moment particulièrement agréable pour les chauffeurs non plus.
Vous avez dû faire de la politique, parce que ça, c'était la bonne réponse à faire à Ruffin. Mais qu'est-ce que vous faites des pauvres chauffeurs?
Je sais pas si quelqu'un l'a fait.
Oui, mais je voudrais profiter de votre présence pour, de temps en temps, comme ça, sur les sujets, essayer de creuser, de faire comprendre, à entendre à nos auditeurs ce qu'est le métier de journaliste politique. Par exemple, supposons que Ruffin n'ait pas fait ce, entre guillemets, reportage provoque. Est-ce que vous auriez pu le faire, ou est-ce que vous vous seriez dit « Non, je n'ai pas à faire un sujet comme ça, entre guillemets, antipolitique ?»
Vaste question. Alors après, c'est vrai qu'il y a aussi un côté pratique. Nous, quand on est à l'Assemblée pour les questions au gouvernement, on n'est pas dans la cour d'honneur derrière, on n'est pas forcément les bienvenus.
Alors, je confirme, vous devriez faire de la politique, parce que pour prendre la tangente aussi bien et pas répondre à ma question, c'est pas mal.
On n'y aurait pas forcément pensé, parce qu'on n'aurait pas vu les voitures, en fait,
d'accord,
tout simplement.
Mais alors, supposons qu'un de vos copains sur place vous dit « Regarde, il y a un coup à faire là, sur les voitures. »
Honnêtement, non. On ne l'aurait pas fait, je crois. C'est à la fois de... Mais c'est pas de l'autocensure. C'est, on s'intéresse évidemment aux coulisses de la politique. Pas... Après, est-ce que c'est vraiment au service politique qu'il y a déjà pas mal de choses à expliquer, et notamment à ce moment-là, l'examen de la loi à l'Assemblée nationale et tous les sujets politiques de la semaine. Est-ce qu'on aurait pris le temps de faire ça? Est-ce que ça mérite cet éclairage-là? Non,
d'accord,
je crois pas.
Très bien. Alors, par ailleurs... Autre chose, qu'est-ce qui a dominé dans cette semaine? On a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de la canicule, les politiques, mais aussi les médias. Mais les médias ont ajouté un discours, en tout cas une interrogation sous forme parfois de pré-réponse. Est-ce que l'État n'en fait pas trop? Est-ce que le gouvernement n'en fait pas trop? Et je trouve qu'il y a quelque chose de paradoxal, parce qu'on pourrait renvoyer la question aux médias eux-mêmes. Mais attendez, vous en faites
bien
des tonnes, et vous interpellez le gouvernement sur le fait qu'il en ferait trop.
Ceci dit, c'est pas forcément les médias qui ont été à la manœuvre là-dessus. Par exemple, Christian Jacob, le patron des groupes, du groupe Les Républicains à l'Assemblée, qui mardi matin sur Europe 1 dit le gouvernement fait peut-être, les ministres font un peu de zèle. C'était le lendemain donc de l'annonce par Jean-Michel Blanquer du report des épreuves du brevet. Donc ça a traversé l'esprit de certains politiques. Mais c'est vrai que la canicule, on en fait beaucoup, parce que je crois qu'on peut employer le terme. Il y a un traumatisme en France. 2003, 15 000 morts quand même au cœur du mois d'août. Donc forcément, ça nous interroge tous. Et pas que les politiques, pas que les médias. Alors oui, sans doute qu'on en fait beaucoup, que le gouvernement en fait beaucoup. Mais voilà, il y a ce traumatisme.
Et s'il est justifié pour les médias d'en faire beaucoup, ce qui d'ailleurs est assez largement mon avis, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas justifié aussi pour le gouvernement d'en faire beaucoup.
Moi, je suis d'accord avec vous, parce que c'est vrai qu'on a vu depuis lundi matin toutes les unes de la presse, unanime, la même photo, le même titre. Et évidemment, Aurélie Herbemont le dit avec justesse. Bien sûr qu'il fallait sans doute le faire, et puis il y a ce traumatisme de 2003. En revanche, on peut pas, les médias ne peuvent pas faire toute leur une, et puis après passer à « le gouvernement en fait-il trop ?» Pour le coup, les ministres le disaient eux-mêmes cette semaine. Quelque part, ils sont piégés, parce qu'effectivement, la pression est telle, il y a un tel tribunal de l'opinion publique, les médias mettent l'accent sur cette canicule, donc effectivement, ils en font beaucoup, ils en auraient fait de toute façon, mais là, ils sont encore plus sous pression. C'est vrai que c'est assez bizarre, voire absurde, que deux jours après, on se demande s'il en fait trop, même si la question, là aussi, elle est légitime. Mais c'est vrai qu'on passe de l'un à l'autre sans beaucoup de
Et puis alors parfois, une Autre raison, c'est qu'il y a guère d'autres sujets dans l'actualité. Mais parfois, quelqu'un surgit qui, tout d'un coup, refait surface et attire la lumière vers lui. Qui ça ? Suspense. Réponse dans quelques instants.
Olivier Duhamel sur Europe 1.
Jusqu'à 11h, vous écoutez Mediapolis avec Olivier Duhamel. Olivier qui reçoit ce samedi Virginie Riva et Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1.
Absolument. Et il y a quelques minutes, deux minutes, nous évoquions le retour de quelqu'un qui a tiré la lumière. Alors, la plupart, si vous êtes amusé à chercher à deviner, ce n'était pas extrêmement difficile. Il s'agit de Nicolas Sarkozy. Si je ne me trompe pas, Aurélie Herbemont, Nicolas Sarkozy, il est dans votre besace.
Vous, exactement. Dans...
Oui, exactement, oui, oui. D'accord. Alors, d'abord, est-ce que vous avez été surprise ?
Surprise qu'il sorte un livre.
Oui.
Alors forcément, il y a toujours l'effet de blast parce que on s'attendait pas à ce qu'il en sorte un maintenant. Mais c'est vrai que Nicolas Sarkozy aime bien faire des surprises et sortir des livres. C'était déjà ce qu'il avait fait en janvier 2016, avant de lancer la reconquête qui n'a pas eu lieu. Et c'est ce qu'il fait juste avant d'annoncer sa candidature à la primaire fin août 2016. Donc c'est vrai que le livre Nicolas Sarkozy, c'est son mode d'expression. Qu'il affectionne particulièrement.
Vous l'avez lu ? Vous l'avez lu ?
Bien sûr, je l'ai lu dans la ville mercredi à jeudi. Je l'ai récupéré à 19h mercredi soir.
C'est-à-dire la veille de la parution.
Voilà, exactement.
Ça, c'est l'éditeur qui vous l'a passé.
Oui, j'ai pu aller le récupérer. Vous savez, les livres de Nicolas Sarkozy, ça, c'est toujours un petit peu conceptuel pour les récupérer parce que.
Déjà, ils ne sont pas annoncés. C'est-à-dire que les représentants dans l'édition sont les gens auxquels on dit normalement 6 mois à l'avance ou. Au pire, 3, voilà ce qu'on va sortir.
Tel jour,
allez voir
ça, là,
les
non.
libraires pour leur dire, écoutez, là, ces livres, il faut en commander tant, ça va être très bien, etc., etc. Et là, les représentants n'étaient pas au courant, ils avaient juste un X avec, on va faire un très gros coup sans savoir ce que c'était. Donc, si même les représentants ne sont pas au courant, évidemment, les quelques rares personnes au courant dans la maison d'édition avaient dû signer une clause de confidentialité. Et donc, les journalistes politiques, en tout cas ceux qui comptent comme vous, on le leur donne juste quelques heures avant.
Oui, voilà. Après, ils ont intérêt aussi à nous le donner parce qu'on a des matinales typiquement à la radio. Ouais. Donc du coup, on le récupère dans la soirée. C'était déjà le cas quand il avait sorti Tout pour la France et La France pour la vie. Des petites lectures nocturnes.
Ça vous a plu ?
C'est intéressant parce que moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans le livre, c'est surtout sa relation sur les années avec Jacques Chirac, relation pour le moins tumultueuse entre les deux hommes. Donc du coup, ça c'est intéressant. Et puis forcément, quand on est journaliste politique, on trouve pas ça désagréable, les petits portraits parfois extrêmement saignants que fait Nicolas Sarkozy de ses congénères.
Quand j'ai tweeté là-dessus, j'ai imaginé Jacques Chirac en train de le lire et de se remémorer les vers de Corneille sur le cardinal de Richelieu. Il m'a fait trop de mal pour en dire du bien, il m'a fait trop de bien pour en dire du mal.
C'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça. On voit vraiment toute l'ambivalence de leur relation, à la fois beaucoup d'admiration et des moments de détestation absolue. Il y a des scènes dans le livre de violence verbale entre les deux hommes. On dit waouh. Mais c'est plus compliqué que ça. Voilà, c'est pas
vous allez noir
blanc. Alors, moi, je vais le lire, oui, sans doute, bien sûr, si Aurélie Herbemont veut bien le prêter.
Il est tout stabiloté sur l'idée.
Mais elle ne va pas l'acheter. Attention, Nicolas ne sera pas content.
Je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu les bonnes feuilles. Oui. Moi, ce qui m'a interpellé, mais il faudra évidemment que je le lise, c'est quand même la chronique de l'ancien monde. Et c'est très. Ça a l'air extrêmement bien chroniqué sur ses haines recuites, sur ses. Tout ce passage aussi par les territoires, Nicolas Sarkozy rappelle lui qui était un jeune loup pressé, et puis comment François Mitterrand par exemple lui a raconté qu'il fallait attendre, il fallait de la tenacité, qu'il avait attendu lui 30 ans pour accéder à la fonction suprême. On peut pas s'empêcher de se dire que même s'il s'entend extrêmement bien avec Emmanuel Macron, forcément il y a des petits clins d'œil sur l'arrogance qui a été la sienne, ça il le dit dans son interview au Point aussi, et Nicolas Sarkozy qui le dit lui-même en fait, il dit moi je suis plus trop de cette époque des réseaux sociaux. Je crois que je suis un peu de l'ancien monde. Il le dit lui-même. Et ça m'a beaucoup interpellée.
Alors, il y a quelqu'un qui a travaillé avec lui et qui n'a pas repéré, enfin, qui n'a pas été passionné et surpris par les mêmes choses que vous. Écoutez, c'est un de ses anciens conseillers, une de ses plumes de l'époque, Camille Pascal, romancier, lui aussi.
Je suis stupéfait parce que, en fait, c'est le Sarkozy que je connais. C'est-à-dire qu'il y a son authenticité, il y a cette façon qu'il a, qui n'est peut-être plus la même qu'à 10 ou 15 ans, hein, d'ailleurs, de voir les choses. Et surtout, ce n'est pas un homme qui fait part de ses sentiments. Il peut faire part de ses passions, parfois violentes, mais de ses sentiments, de son intimité, non. Et là, c'est un texte profondément intime. Parce que ce n'est pas le récit de sa vie, c'est le récit de ses sentiments face à la vie.
Voilà, donc lui, il a eu une lecture, finalement, ça lui était un peu égal, les trucs strictement politiques. Il a cherché autre chose et il a vu ça.
C'est vrai que c'est un livre très, très intime.
Virginie Herbemont, oui. Virginie Riva, c'était il y a un instant. Et Aurélie Herbemont, c'est maintenant. Bravo, raté, Olivier Duhamel.
C'est vrai que c'est un livre très personnel, très intime. Après, Nicolas Sarkozy, il a parfois fait part de ses sentiments, même quand il était dans la vie publique, même quand il était à l'Élysée. Mais c'est vrai qu'il le raconte, c'est son récit. Évidemment, il y a beaucoup de jeux, mais forcément, on n'en attendait pas à autre chose. Et c'est vrai qu'il parle de son père, de sa mère, de son divorce avec Cécilia et de sa rencontre avec Carla. C'est vrai qu'il en parle beaucoup.
Alors après, il y a une question que je suis obligé de vous poser. Et en même temps, j'ai conscience que c'est une question idiote. Donc je vais réfléchir pour savoir si je vous la pose.
Il n'y a jamais de question idiote.
Et on se retrouve dans quelques minutes.
10h, 11h, Olivier Duhamel sur Europe 1.
Comme chaque samedi, on vous retrouve Olivier Duhamel avec Mediapolis. Et aujourd'hui, vous êtes entouré par Virginie Riva et Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1.
Fort bien entouré donc, et j'ai réfléchi, la question je vais la poser, même si la réponse est soit impossible, soit va de soi. C'est la question que tout le monde, beaucoup se pose. Est-ce qu'avec ce livre, c'est le signe que Nicolas Sarkozy souhaite revenir ?
Ben, il est de retour en librairie.
Et Virginie Riva ?
Je crois que la question du recours se pose, oui. Mais pas de forcément revenir, il le dit lui-même, hein, un recours ça ne s'anticipe pas, ça ne se décrète pas, mais est-ce qu'on peut devenir un recours et est-ce qu'on peut mettre en place des choses qui font qu'on le devienne vraiment dans l'esprit des gens ? Un livre peut en faire partie, oui.
Oui, d'ailleurs, la dernière phrase de l'interview dans Le Point est assez ambiguë là-dessus. Parce que
exactement.
Je ne peux pas souhaiter le malheur de la France.
C'est ça,
ce qui veut dire... S'il y avait le malheur de la France, il se pourrait que je sois la seule solution.
Hors circonstances effectivement extrêmement exceptionnelles, le retour de Nicolas Sarkozy ne s'écrit pas forcément. Bon, il a perdu en 2012, il revient une première fois quand même, parfois on a tendance à l'oublier, mais il revient en 2014, primaire de 2016, il est battu dès le premier tour dans la primaire de son propre camp. Donc l'envie de Nicolas Sarkozy n'est pas forcément... partagé de manière extrêmement large et inconditionnelle dans tout le pays. Donc, sauf effectivement circonstances exceptionnelles et qu'on ne voit pas pour l'instant,
Aurélie,
mais qui peuvent toujours advenir.
Vous parliez tout à l'heure d'un ancien monde. Est-ce que les hommes politiques comme François Hollande ou comme Nicolas Sarkozy, quelle que soit par ailleurs l'estime ou l'admiration qu'on peut avoir pour eux, ne sont pas illusionnés par les précédents de François Mitterrand et Jacques Chirac qui ont perdu avant de gagner, alors que il n'y a plus un pays, il n'y a plus une démocratie dans laquelle, lorsque le chef du pouvoir est parti, soit parce qu'il ne pouvait pas se représenter, soit parce qu'il a perdu une élection, ils reviennent, ça n'existe plus.
J'ai le
sentiment qu'en France, c'est pareil.
C'est vrai que l'époque a changé. Pour les présidents de la République, effectivement, de la Ve République, on avait quand même, et je pense que le peuple français aimait ça, il fallait porter à la magistrature suprême quelqu'un qui était bardé de cicatrices, qui avait souffert, qui avait échoué, qui était revenu, qui n'avait jamais rien lâché. Et maintenant, on est quand même dans une époque où tout va plus vite, on se lasse plus vite, on zappe plus vite. Donc, c'est vrai que...
Et pourtant, ils ont beaucoup de mal à accepter. Regardez ce qui se passe du côté de la France insoumise. Et Virginie Riva va nous le commenter dans un instant. Mais écoutez d'abord, Adrien Quatennens, député LFI, est désormais numéro 2 de la France insoumise.
Son rôle, effectivement, et constitue le fil rouge, quelque part, de notre mouvement. Jean-Luc Mélenchon, son rôle est bien évidemment particulier parce qu'il a été celui qui a pensé et construit la France insoumise. On peut d'ailleurs apprécier le fait que s'il ne l'avait pas fait, s'il n'avait pas créé ce mouvement, la situation politique française, et notamment du courant de pensée que nous représentons, ne serait pas la même. Le but n'est pas de faire une direction politique figée, quelque chose de rigide, mais d'assumer un espace de refondation dans lequel, j'insiste bien, tous les insoumis devront pouvoir s'impliquer.
C'était sur Europe 1 lundi 24 juin et la veille, hein, sauf erreur de ma part,
la veille, oui.
Dans sa première vraie longue prise de parole depuis l'échec retentissant de la France insoumise de l'élection européenne, Jean-Luc Mélenchon avait intronisé Adrien Quatennens comme numéro 2. D'ailleurs, la phrase qu'on a citée là est relativement ambiguë, hein, parce qu'il emploie le passé composé. Il a été celui qui a pensé. Donc, est-ce que vous croyez que, puisqu'on parle des hommes politiques qui comprennent, qui doivent passer la main et de ceux qui ne comprennent pas, vous rangeriez Jean-Luc Mélenchon dans quelle catégorie, Virginie Riva ?
Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'effectivement, cette année si difficile pour lui, avec l'épisode des perquisitions, et son score aux européennes, qui est effectivement très mauvais, 6%, ont entamé le personnage Jean-Luc Mélenchon et sa présidentiabilité. En fait, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde se posait la question, est-ce qu'il va se retirer de la France insoumise après son long silence après les européennes ? Tout le monde savait que non. Évidemment, il n'a pas remis en jeu son poste de président du groupe parlementaire.
Mais est-ce que vous avez donc considéré que ma question n'avait aucun intérêt ? Vous l'avez changé, très bien, je vous remercie.
Je l'ai reformulé.
Mais du coup, est-ce que vous pouvez répondre à votre question sur sa présidentialité altérée ou pas ?
Moi, j'ai un doute parce que, effectivement, le mouvement et Jean-Luc Mélenchon lui-même sont conçus comme des machines à aller à la présidentielle. C'est pour ça, d'ailleurs, que son mouvement aujourd'hui, si gazeux, fonctionne mal, en fait, dans cette période-là, entre deux élections présidentielles. C'est le tribun, en fait. Et ce mouvement qui n'a pas vraiment d'espace pour trancher. Je pense qu'il ne faut pas. En 2022, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que Jean-Luc Mélenchon est totalement mort, ça c'est clair. Il est excellent quand il est dans une conquête, quand dans une campagne présidentielle. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est à terre, mais voilà, je pense qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, Mélenchon est mort, non.
Alors, j'ai une autre question dans la catégorie des questions absurdes. Bon, je réfléchis et je vous dis, mais je crois que je vais quand même vous la poser dans quelques instants.
Aurélie Herbemont et Virginie Riva du service politique d'Europe 1 sont vos invités ce matin, Olivier Duhamel, dans Mediapolis.
Donc j'y vais avec ma question. C'est pas exactement absurde, c'est les questions que je supporte pas qu'on me pose, parce que quand on me les pose, je réponds, les politologues ne peuvent pas prédire. Mais donc c'est pas une réponse professionnelle que je vous demande, c'est une réponse comme ça intuitive si vous sentez quelque chose. S'il devait renoncer, Mélenchon, à être candidat à la prochaine présidentielle, est-ce que vous pensez que le candidat le plus vraisemblable serait Quatennens ou Ruffin ? Virginie.
Ruffin, sûr, mais je crois que Ruffin lui-même a dit cette semaine que si, en 2022, il n'est pas évident qu'il y ait un candidat pour la France insoumise et qu'il pourrait éventuellement se ranger derrière une candidature sociale, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler. La question, c'est plus celle-là, c'est quel est le pôle qui se présente ? Est-ce que ce sera les écolos ? Est-ce qu'il restera un vrai espace pour la gauche, et notamment la social-démocratie ?
Deuxième fois qu'on explique que ma question n'a aucun intérêt, qu'il faut en poser une autre. Bon, j'ai l'habitude, décidément. Non, mais attendez, je peux poser ma question de façon un tout petit peu plus pertinente. Est-ce qu'en désignant Quatennens, comme il vient de le faire, comme son numéro 2, ça ne veut pas dire aussi
qu'il a choisi son successeur.
Au cas où j'irai pas moi, je préfère que ce soit Quatennens que Ruffin.
Ça peut aussi être, je me réserve pour les choses sérieuses et Adrien Quatennens gérera l'intendance, hein, vous
ça
savez.
Ça peut aussi.
Il y a aussi un truc de génération, tout le monde de ça, les quadras le disent, hein, les quinquas surtout. À la France Insoumise, là, Mélenchon fait la promotion d'une génération très jeune. C'est pas qu'une façon d'organiser la succession, c'est aussi une façon de squeezer une autre génération, celle des Corbière, Coquerel, Ruffin en partie, même s'il est jeune aussi. Mais ça aussi, il faut voir qu'il met au pouvoir, en vice-présidente par exemple à l'Assemblée, Mathilde Panot, il met Quatennens, qui sont des gens qui sont trop jeunes aujourd'hui.
Oui. D'accord. C'est d'ailleurs assez courant, ça.
C'est très courant de mettre des jeunes et comme ça...
Même en politique, même dans d'autres milieux.
Même dans d'autres milieux, on squeeze la génération juste après en disant, ils sont très bien, ces petits jeunes, vraiment très bien, mais pour la prochaine fois, ils ne seront pas totalement mûrs.
Absolument. Et alors, pendant ce temps-là, on voit, du côté du pouvoir en place, dans les baromètres d'opinion, alors souvent je suis critique sur les sondages, notamment l'intention de vote, et je trouve qu'on leur accorde une importance démesurée. Autant les baromètres de popularité, à condition qu'on comprenne bien que ça ne veut pas forcément dire pour tout le monde éligibilité, ça veut dire quelque chose quand on pose toujours la même question et qu'on voit des mouvements significatifs, importants. Et le président de la République avait quand même subi une assez rude décrue de sa très très faible popularité qui était tombée, de, pour simplifier, à un tiers vers un quart. Et grosso modo, il est revenu à un tiers. Est-ce que, pour vous, quels sont les principaux éléments qui expliquent ce regain, ce rebond ? Est-ce que, par exemple, disons, si j'en cite deux, qui sont, un, la façon dont il a eu de gérer la sortie du mouvement des Gilets jaunes, et par les mesures prises favorables à un certain nombre de Français, et par l'opération Grand Débat, retour vers les Français et le dialogue, c'est ça qui compte ? Ou est-ce que c'est plus particulièrement le fait qu'il n'a quasiment pas d'opposition forte ?
C'est ce que j'allais vous dire. Il y a évidemment les questions de fond sur la sortie de cette crise extrêmement grave avec les Gilets jaunes. Mais quand vous regardez les autres partis politiques, à part Emmanuel Macron, bon ben, il y a Marine Le Pen. À droite, c'est un petit peu sinistré en ce moment. Surtout voilà, une partie de l'électorat de droite modérée se dit, après tout, Emmanuel Macron, c'est pas si mal. Et à gauche, bon ben Mélenchon a pris le bouillon aux européennes. Yannick Jadot commence à se dire que peut-être il y a un coup à jouer. Mais sinon, il y a quand même pas grand monde sur la scène politique dans l'opposition à part Emmanuel Macron. Donc je pense que pas mal de Français se disent, et encore on n'est pas sur des niveaux de popularité, on est loin de 2 Français sur 3 quand même, se disent, après tout, il n'y a pas grand monde d'autre, donc laissons-le faire. Il est sorti vivant de la crise des Gilets jaunes, donc après tout, regardons, il n'y a pas d'échéance demain nouvelle.
Mais est-ce que vous n'avez pas tendance, et là je m'adresse aussi à Virginie Riva, est-ce que vous n'avez pas tendance, vous les journalistes politiques, à surestimer le facteur entre guillemets politicien, faiblesse des opposants, faiblesse et à sous-estimer le facteur décision politique de fond, changement des politiques publiques, comme on dit.
En tout cas, il y a de l'habileté. Alors, habileté, c'est un mi-chemin entre effectivement un calcul politique cynique et des vraies réformes impulsées. Il y a de l'habileté parce que effectivement, on peut pas s'empêcher de penser que après une telle crise et quand même un niveau de détestation aussi chez certains Français, il avait ce côté très irritant, ces petites phrases, ce mépris. Il a réussi avec ce grand débat à retourner vers les Français et à prendre ce qui lui manquait fondamentalement. C'est de l'habileté et puis c'est aussi c'est une stratégie. Après, sur les réformes de fond, je pense que là où il va pêcher, il faudra voir maintenant les résultats, les sondages à partir de maintenant, c'est quand même cette réforme de l'assurance chômage qui arrive alors qu'il a demandé à mettre en place l'acte 2 du quinquennat avec un changement de méthode, ce que les Français clairement lui ont fait comprendre. Et puis là, c'est une réforme avec la méthode de l'acte 1. Où les partenaires sociaux n'ont pas été très associés, qui va passer un peu comme ça. Alors certes, il n'aura pas d'opposition, puisque vous le disiez, effectivement, il n'en a pas. Mais ça risque là aussi d'écorner son image. Et puis il y a encore, par exemple, sur l'écologie, il dit qu'il s'est converti à l'écologie, mais clairement, aujourd'hui, les Français attendent des actes forts. Et là-dessus, ils sont toujours jugés insincères. Donc,
Oui, enfin, quand même, là, justement, ça, pour le coup, c'est même l'actualité de cette nuit, Le G20, il a vraiment tenu sur les accords de Paris. Il a menacé de ne pas signer les accords de libre-échange avec le Mercosur, c'est-à-dire avec l'essentiel de l'Amérique du Sud, si le Brésil revenait dessus. Et ça a marché.
Il a conservé les acquis, effectivement.
Il a conservé les acquis. C'est une grande habileté. Alors que le but de Trump était de...
D'avoir des nouveaux amis et de plus être à 19 plus 1. Mais
voilà. Et qu'au moins son ami Bolsonaro, le brésilien, au moins lui... viennent le rejoindre. Donc ça, c'est pas que des mots, ce sont des actes quand même. Alors, il y a un autre sujet assez intéressant aussi qui est compliqué, qui est celui de la déontologie des journalistes, de ce que les journalistes peuvent et ne peuvent pas faire, et quel est le moyen de garantir dans des temps nouveaux, comme ceux des réseaux sociaux, des fake news, etc., un respect minimum de l'exactitude, ou à tout le moins... d'éviter la falsification délibérée. On y vient dans quelques instants.
Olivier Duhamel sur Europe 1.
De 10h à 11h, vous êtes avec Olivier Duhamel pour Mediapolis. Et ce samedi, Olivier, vous recevez deux journalistes du service politique d'Europe 1, Virginie Riva et Aurélie Herbemont.
Et Paul Lassen, qui prépare l'émission avec moi, m'a signalé quelque chose qu'en vérité j'avais remarqué par moi-même, hein, il faut bien le reconnaître, c'est-à-dire une interview de Cédric O à l'agence de presse Reuters, parce que c'était difficile de ne pas s'en apercevoir vu le bruit que ça avait fait, dans lequel le secrétaire d'État au numérique plaidait pour la création d'un dispositif au sein de la profession des journalistes pour lutter contre les fake news et n'excluait pas que le gouvernement, l'État, se saisisse du dossier. L'État s'en chargera, a-t-il même dit. Tollé généralisé. D'ailleurs, en 2017, lors de la campagne présidentielle de Macron, Paul Lassen me rappelle, et là il a raison, parce que j'aurais oublié, qu'il avait été interrogé, le candidat, sur la possibilité d'un tel conseil, et déclaré « Moi, depuis l'Italie des années 30, je n'avais pas vraiment croisé ça ». Donc c'était une erreur de ligne qui a été très vite rectifiée, puisque Cédric O est finalement revenu sur ses propos, défendant sa vision, tout en déchargeant le gouvernement d'y adhérer. Alors, est-ce qu'il faut un organe, et si oui, lequel, de quel type, pour la déontologie des journalistes ? Aurélie Herbemont.
Alors certains y travaillent, il y a un observatoire de la déontologie des journalistes qui travaille à créer une structure, donc pour l'instant on ne voit pas bien les contours, mais ce qui est sûr c'est que c'est certainement pas à l'État de s'en mêler. C'est là que Cédric O a fait sa première boulette de secrétaire d'État nommé depuis quelques mois. Parce que c'est vrai que si l'État s'en mêle, ça peut poser un petit problème sur la liberté de la presse. Évidemment,
Virginie,
les fake news, il faut lutter contre.
Vous êtes d'accord ?
Alors, si je peux me permettre, il y a deux choses. C'est une boulette, certes, mais quand même, la majorité est obsédée par l'idée des fake news. Je ne sais pas si c'est une boulette, si c'est un ballon d'essai, si c'est une sortie. En tout cas, on l'a vu, il portait un projet de loi fake news. Au moment de la crise des Gilets jaunes et pendant le grand débat, leur angoisse absolue, c'était de se dire, au moment du grand débat, c'était d'être piraté. Et notamment, clairement, l'ennemi visé, c'est la Russie. Mmh. Hein, c'est Russia Today et c'est Sputnik. C'est ça dont ils ont peur, c'est de cette influence-là, de cette ingérence étrangère. Et pareil pour les Gilets jaunes. Moi, je me souviens avoir discuté à l'époque avec pas mal de parlementaires qui, à chaque fois, nous disaient « Mais regardez sur les réseaux sociaux, regardez qui parle, regardez... » Donc, c'est quand même leur grande obsession. Et peut-être que... En fait, on ne sait pas. Peut-être que le président lui-même aussi partage cette inquiétude. Ce que je pense, c'est exactement comme Aurélie, c'est que oui, il faut... bien sûr qu'on a une réflexion à avoir. Je le dis sans corporatisme, il faut s'organiser. D'ailleurs, je crois qu'Europe 1, il travaille. Il faut s'interroger vraiment sur une déontologie. Il faut poser les questions. C'est pas que entre nous, mais c'est sûr que c'est pas à l'État de venir nous dire ce qu'il faut ou non.
Oui, en même temps que vous dites ça, je vous signale ce que vous savez très bien au demeurant, qu'il y a une autorité administrative indépendante qui s'appelle le CSA et qui, sur beaucoup d'aspects, ne se gêne pas pour dicter les règles de temps de parole politique, pour faire des rappels à l'ordre ou des avertissements quand il trouve qu'on n'a pas. Quand on a tenu des propos choquants, etc. etc. Donc il y a déjà des choses qui existent où quelque chose qui émane de l'État interfère dans la vie des médias. C'est pas absolument inédit.
Oui, mais c'est pas totalement la même chose parce qu'il fixe un cadre, vous le disiez effectivement sur le temps de parole par exemple pendant les campagnes, mais là c'est plus quelque chose de certification des médias pour dire voilà, toi tu fais pas bien ton travail de médias, tu n'informes pas bien, t'es sous influence russe, etc. Donc on te ferme. On n'est pas tout à fait sur le même volet, mais c'est vrai que Emmanuel Macron d'ailleurs au moment où il avait présenté la loi anti-fake news, c'était pour ses vœux à la presse en 2018, il avait dit qu'il fallait une forme de certification des organes de presse, mais faite par les médias, pas par l'État. Parce que c'est vrai, on peut quand même rappeler que depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir, parfois, il y a des moments de tension avec la presse. Bon, il y a ces derniers mois des journalistes, notamment Ariane Chemin du Monde et d'autres qui ont travaillé sur les ventes d'armes au Yémen, elle sur l'affaire Benalla, qui se retrouvaient convoqués à la DGSI. Donc tout ça donnait un sentiment un petit peu de... Oh là, dans quoi est-ce que le gouvernement, l'exécutif, veut mettre la main dans ce que font les médias ? C'est ça, je pense, qui a en plus renforcé le côté de réaction extrêmement vive de la part des journalistes après la sortie de Cédric O. Il y avait un contexte un petit peu compliqué entre les médias et l'exécutif, globalement. Et
peut-être qu'il y a aussi un vrai problème ailleurs dont on parle fort peu, qui est... le traitement des affaires, le traitement des personnes dans les affaires, pour à peine forcer le trait, dans certains cas, le procès médiatique fait avant le procès judiciaire et sans que les personnes bénéficient des mêmes droits de la défense. Et
ça, je pense que le temps médiatique n'est pas du tout le temps judiciaire.
Pour le coup, c'est une vraie question qui renvoie aussi à qu'est-ce qu'on a le droit, voire le devoir de révéler concernant les hommes politiques, ou qu'est-ce qu'il faut laisser à l'écart parce que ça relève de la vie privée et pas du débat public. Et il se trouve que cette semaine, cette question a justement rebondi. Où et avec qui? On voit ça dans quelques instants.
10h-11h, Olivier Duhamel sur Europe 1.
Mediapolis continue avec vous, Olivier Duhamel, mais avec aussi vos deux invités du jour, Aurélie Herbemont et Virginie Riva du service politique d'Europe 1.
Merci Justine. Alors, quel homme politique et dans quel pays s'est trouvé en situation de reposer la question de la limite, entre vie publique et vie privée, entre ce qui devait être traité dans l'espace public et ce qui devait être réservé à l'espace privé? Alice Baudry, directrice de la stratégie du développement à l'Institut Montaigne, qui surveille les médias internationaux pour Mediapolis, nous a signalé un article de The Economist du 29 juin. Et l'homme en question, c'est Boris Johnson. Et le titre, un peu étonnant, Britain's First French Prime Minister, point d'interrogation. Est-ce le premier ministre français? Vous allez voir pourquoi, parce que ça fait bizarre comme ça. Monsieur Boris, ses chances dépendent d'à quel point les Britanniques sont devenus français dans leur relation à leur vie privée. Et là va se suivre dans l'article une vision de la conception française, à mon avis, assez erronée. Mais bon, c'est le grand hebdomadaire des économistes qui le dit. Et alors, avait répondu François Mitterrand, président de la République française, à propos d'un enfant dénu d'une relation hors mariage. Sa réaction résume la manière dont la vie privée des politiques français ne préoccupe guère les électeurs français. Les critiques à l'encontre de François Hollande, surpris par une affaire, se sont concentrées sur le fait qu'il s'était rendu à ses liaisons illicites sur un scooter non présidentiel. Boris Johnson aurait bien aimé que les Britanniques adoptent un positionnement similaire lorsqu'une dispute avec sa petite amie fit la une des journaux le 21 juin, après que la police eût été appelée dans son appartement du sud de Londres. Monsieur Johnson tente de maintenir une barrière infranchissable entre vie publique et vie privée. Je cite Johnson, enfin l'article cite Johnson. Je ne parle pas de choses impliquant ma famille, mes proches. Et il y a une très bonne raison à cela. Si vous le faites, vous les entraînez dans des domaines qui ne sont vraiment pas justes pour eux, a tonné Boris Johnson. Malheureusement pour Johnson, contrairement aux Français, poursuit The Economist, les Britanniques s'intéressent énormément à la vie personnelle de leur politique. Plus de la moitié des électeurs pensent que la vie privée de M. Johnson joue un rôle important dans sa capacité à être Premier ministre, selon un sondage réalisé par Salvation cette semaine. Donc, je crois que c'est pas vrai de dire qu'en France, il n'y avait que l'histoire du scooter, et qu'en fait, on s'est aligné, et la plupart des démocraties s'alignent sur ce qui était la position britannique, et que la frontière a assez largement explosé. Est-ce que vous êtes d'accord avec au moins ce constat, Aurélie Herbemont?
Oui, c'est vrai que partout, la frontière a explosé, parce que de toute façon, on est à une époque où tout finit par se savoir. Après, là, on est visiblement sur... si la police intervient, c'est peut-être que ça se passait très mal. On est encore sur un autre sujet.
Non, la police a dit qu'il n'y avait rien.
Il n'y avait rien, bon, ouais. Donc ça va. Mais quand même, c'est vrai que maintenant, tout est sous... Tout se fait de manière transparente. François Mitterrand, aujourd'hui, ne pourrait plus cacher Mazarine.
Et donc, c'est normal, il n'y a pas de limite, Virginie Riva. Par exemple, vous, on vous dirait, voilà, tel très grand personnage de l'État, ses voisins disent qu'ils entendent une énorme gueulante dans l'appartement entre lui et son mec. Vous en faites un sujet le lendemain?
Ah non, moi, la limite, pour moi, c'est le droit. Enfin, c'est est-ce qu'il y a un délit ou pas? Si, évidemment, il y a des violences potentielles supposées, s'il y a une menace, je comprends que cette femme soit éventuellement intervenue, celle qui est allée écouter aux portes et qui a fait connaître du coup cette histoire. Une scène de ménage, c'est une scène de ménage, ça a vocation à rester dans la sphère privée, ça c'est évident. En revanche, voilà, moi c'est la question du droit, s'il y avait eu violence, s'il y avait eu... Là, ça change complètement les choses.
Oui, mais là, regardez, dans ces cas-là, apparemment, évidemment, j'y étais pas, ni vous, mais apparemment, de ce que disent les protagonistes, d'une part, et de ce que dit la police d'autre part, il n'y avait pas de violence. Ils se sont gueulés dessus.
Ouais,
Assiettes, mais point barre. Donc on n'aurait pas dû le savoir, normalement.
Ouais, c'est toute la question. Mais c'est vrai que sans doute, parfois, on va un petit peu loin. Mais ce que dit The Economist, pardon, en citant Boris Johnson, c'est, il dit, si on met le doigt là-dedans, après, on ne contrôle plus rien. Et c'est vrai que certains hommes politiques en France ont mis en scène presque leur vie privée. Mais,
mais Virginie Riva, c'est pas vrai ce que vous dites, que la limite, c'est le délit ou pas le délit. Regardez, quand un ministre...
Ah, vous me posez la question pour traiter le sujet. Moi, c'est ça,
oui,
ma limite.
Parce que quand un ministre de l'Intérieur se retrouve en boîte de nuit à 2h30 du matin à danser avec quelqu'un qui n'est pas sa femme... On en fait un sujet.
Fait, les hommes politiques sont devenus
pourtant,
des people comme les autres.
C'est pas un crime.
Non, c'est qu'ils sont devenus des people. Ils sont exposés, effectivement, et ils doivent s'attendre à ce qui n'était pas le cas. C'est effectivement, voilà, c'est l'époque Mitterrand, c'est révolu. Et aujourd'hui, si vous êtes en boîte et que vous êtes ministre de l'Intérieur, effectivement, vous allez être partout sur les réseaux sociaux. Donc, votre popularité vous expose.
Donc il ne faut pas être visible. Si vous êtes dans un lieu caché, ça ira. Mais si vous êtes visible, vous êtes cuit.
Sinon, vous risquez de vous faire prendre, de toute façon. Maintenant,
et
c'est
si
compliqué de cacher.
Et si on se fait prendre par les réseaux sociaux, comme on est pris par les réseaux sociaux, les médias classiques, dont celui-ci et tous les autres du même type, qui eux-mêmes auraient respecté la limite, ne la respectent plus, parce que comme c'est sur les réseaux sociaux,
quand
du coup, on est bien obligé.
Quand tout le sujet, c'est difficile de ne pas en parler.
Parce que sinon,
donc la limite a sauté.
On vous accuse de censure si vous n'en parlez pas. Donc on est dans un truc totalement schizophrénique, quasiment.
Voilà. Donc on est coincé.
Donc après, qu'est-ce qu'il faut faire ? En parler, on peut le faire de manière...
On peut le regretter, comme regretter qu'il fasse trop chaud, et quand on regrette qu'il fait trop chaud, bah écoutez une chanson. Voilà, donc on va écouter une chanson sur le fait qu'il fait trop chaud. Alors évidemment, cette chanson, c'est notre ami Jean-Luc Arblade qui l'a choisie, parce que et c'est une chanteuse qu'il adore, et que moi, ringard comme je suis, je ne connaissais même pas, qui s'appelle, attendez que je retrouve mes papiers, qui s'appelle Pauline Esther, une chanson de 1989 et qui est un très très grand scoop. Il fait chaud.
Abreuvé coca, écroulé sur un matelas, le nez sur la radio qui répète qu'il fait chaud. Pas envie de travail, je reste couché, je déraille. Tous les jours c'est pareil, faut que je me cache du soleil, il fait chaud. Faire attention au soleil, il fait chaud. Et tous les jours c'est pareil. Échanger cigarette, allongé sur le dos, tout paraît moins honnête sous soleil Bornéo. Tu joues tequila, tu bois et tu bois. Ça me fait vraiment mal de te voir dans cet état. Il fait chaud. Faire attention au soleil. Il fait chaud. Et tous les jours c'est pareil.
Merci à Jean-Luc Arblade pour cette bonne chanson de Pauline Esther, 1989, il fait chaud. Merci à Justine pour sa précieuse compagnie. Merci à Aurélie Herbemont et Virginie Riva d'avoir répondu souvent à leurs questions et parfois aux miennes. Vous pouvez faire écouter l'émission en podcast sur europe1.fr. Et on se retrouve samedi prochain. Et maintenant, vous allez avoir l'ami Laurent Mariotte.
Exactement, avec la table des bons vivants qui déclenche le plan anti-caniculaire aujourd'hui. Bonjour Laurent.
Merci cher Olivier. Bonjour Justine. Du frais, des gazpachos, des salades. Oui, nous déclenchons le plan anti-canicule ce samedi. Notre dossier du jour sera consacré aux glaces artisanales. Et puis nous partagerons un dessert aux abricots avec Jean-Pierre Pernaud. A tout de suite.
A tout de suite, Laurent.